Compréhension orale et expression écrite. Vous allez entendre la conférence sur Paris au 19e siècle. Vous avez 30 secondes pour lire le devoir.
Alors, on y va? Alors, à la fin de la deuxième partie, je m'étais arrêté à la Révolution française, donc à la fin du XVIIIe siècle. Je racontais que Paris avait atteint 500 000 habitants. Et si vous voulez tout savoir sur la Révolution française de 1789, je vous invite à regarder son épisode dédié, le numéro 47. Je vous mets le lien dans les fiches. Donc après la Révolution, on arrive au début du 19e siècle et vous allez voir que ce sera celui des plus grands changements de la capitale et vous verrez que deux hommes en particulier sont à l'origine de ces transformations historiques. Une fois la Révolution finie, c'est Napoléon Ier qui est au pouvoir. Il veut aussi s'occuper de l'embellissement de la capitale et il commence très bien parce que c'est lui qui va décider de réaménager la place de l'Étoile. Et au milieu de cette place, Bonaparte ordonne la construction d'une attraction touristique très très célèbre. Pour ceux qui n'ont pas deviné, si je vous dis que c'est un monument de 50 mètres de hauteur et 45 mètres de largeur, tout au bout des Champs-Élysées, on peut passer dessous. Il a été récemment décoré pour une œuvre d'art, c'est l'Arc de Triomphe, évidemment. L'empereur a décidé de faire construire cet édifice en mémoire des victoires des armées françaises. Et la première pierre a été posée en 1806 et il a été inauguré le 29 juillet 1836, donc sa construction a duré 30 ans. Et en dessous de l'arc, il y a la tombe du soldat inconnu depuis 1921. C'est un hommage à un militaire mort durant la Première Guerre mondiale et il y a une flamme éternelle depuis 1923. Et cette flamme est ravivée tous les soirs pour qu'elle s'arrête jamais de brûler. C'est beau, non? Donc évidemment, l'Arc de Triomphe est un monument historique français que je vous conseille d'aller voir. Napoléon s'intéresse aussi aux travaux d'intérêt public et s'occupe de faire construire des hôpitaux, des ponts, des quais et des cimetières. De nouvelles rues sont construites et les premières gares de train apparaissent, comme la gare Saint-Lazare en 1837. Et c'est lui qui décide de découper Paris en 12 arrondissements à partir de 1795. Donc ce sont des quartiers qui sont comme des villes avec leur propre mairie par exemple. Mais ils vont être réorganisés comme on le verra après dans l'épisode. Après la chute de Napoléon en 1841, on va construire un autre mur de défense militaire qui va plus loin que le mur des impôts dont j'ai parlé dans la deuxième partie. Ce nouveau mur va ensuite englober d'autres villages comme Montmartre ou Belleville par exemple. Donc en 1841, la capitale compte environ 1 million d'habitants. La croissance de la capitale est de plus en plus rapide. Paris est devenue une ville majeure de l'ère industrielle, ce qui attire beaucoup d'ouvriers et ce qui provoque un exode rural. Donc les populations fuient les campagnes pour aller travailler dans la capitale. Après les années 1840, le train en tant que moyen de transport se développe de plus en plus et les voies de chemin de fer françaises convergent toutes vers Paris. Donc cette augmentation brutale de la population parisienne a aggravé des problèmes liés à la forte densité de population. Il y a des problèmes de logement, de pauvreté, la criminalité augmente, mais aussi la prostitution et même les suicides. L'insalubrité est telle qu'il y aura environ 40 000 morts du choléra entre 1832 et 1849, rien qu'à Paris. Il y a également de gros problèmes d'embouteillage parce qu'il y a trop de voitures et pas assez de rues. Je parle de voitures avec des chevaux à l'époque, hein, bien sûr. Et c'est ce Paris que décrit Victor Hugo dans Les Misérables d'ailleurs. En résumé, la capitale étouffe et souffre de gros problèmes dont il faut s'occuper. En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État et devient empereur des Français, donc Napoléon III. Et sa présence au pouvoir sera très bénéfique pour Paris. Après avoir été inspiré par Londres en y ayant vécu, il a des idées bien précises sur comment gérer l'urbanisme, le logement et l'aménagement urbain de Paris. Il décide de transformer toute la ville pour en faire une capitale moderne et un modèle d'urbanisme et d'hygiène. En fait, comme vous allez le voir, il va tout casser et tout reconstruire. Son chantier tient en trois mots, aérer, unifier et embellir. Aérer veut dire donner de l'air, donc dans ce cas, dégager les voies, faire de la place. Et pour ça, il va engager le fameux baron Haussmann pour coordonner le projet. L'idée est de créer de grands et larges axes horizontaux et verticaux et de les relier par des cercles concentriques et des diagonales. Donc de reconstruire des avenues entières, de nouveaux immeubles, etc. Ce sont des travaux titanesques sans précédent qui vont durer 17 ans et qui vont transformer la ville en un énorme chantier à ciel ouvert. Des vieux quartiers entiers qui datent du Moyen-Âge vont être complètement détruits pour faire de belles et grandes avenues toutes neuves. Et elles ont la particularité de déboucher sur des grands monuments aux intersections. C'est-à-dire qu'au bout de ces grandes avenues parisiennes, il y a un monument magnifique. Comme par exemple le splendide Opéra Garnier, qui est sur la place de l'Opéra, au croisement de différentes avenues, dont la construction a commencé en 1861. Donc volontairement, au bout de nombreuses grandes avenues parisiennes, il y a toujours un beau monument, c'est volontaire. Et comme j'ai raconté dans l'épisode sur Emily in Paris, Haussmann va aussi imposer son style architectural dans toute la ville. C'est un ensemble de règles de construction qui va s'appliquer pour tous les nouveaux immeubles privés. Les bâtiments sont conçus pour donner cet effet de perspective à des avenues, parce qu'ils sont symétriques d'un côté et de l'autre de la rue. Tout est uniforme, les hauteurs des fenêtres, les balcons, etc. C'est le style haussmannien qu'on retrouve dans d'autres villes françaises, comme à Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, etc. Ensuite, pour redonner de l'oxygène et un peu de verdure, les architectes réaménagent le bois de Vincennes, le bois de Boulogne et créent de grands parcs comme le parc Monceau ou les buts de Chaumont. Donc ce sont plein d'espaces verts qui seront créés dans toute la ville et qui existent encore de nos jours.